que ma joie revienne et qu'au matin je puisse sourire. Que le vent ait séché ma peine et la nuit calmé mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours morts y font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne et qu'au matin je puisse sourire.
C'est gentil.
Alors Dominique, on va y aller.
Ouais, d'accord.
Il est l'heure, j'avais dit 10, il est juste. Mais c'est très bien, les beaux secondes qui vont continuer à arriver.
Bon, j'y vais.
Bah, je te donne une bien sur toi.
Je vais pas chanter, mais je pense. Non, je... On est au cabaret des Lapins Agiles, qui nous prête gracieusement la salle. Je trouve justement très intéressant que ce soit les amis du cabaret du Lapin Agile qui m'ont demandé de venir faire ici une conférence, une rencontre autour du thème de Don Quichotte. Alors, certaines personnes m'ont demandé, mais pourquoi tu ne fais pas une intervention, je ne sais pas, à l'université ou dans un grand centre culturel ou pourquoi pas au Collège de France, parce qu'au fond, pourquoi pas au Collège de France pour parler de Don Quichotte. Eh bien non, c'est le Lapin Agile qui m'a demandé de venir. D'abord parce que la famille du Lapin Agile a bien connu Dominique Aubier, qui est l'exégète de Don Quichotte. Moi, je suis la trace de Dominique Aubier, je mets les pas dans les pas, et donc je me retrouve au cabaret du Lapin Agile, qui est un lieu finalement assez petit, intime, mais c'est un lieu très prestigieux par rapport à tous les artistes qui sont venus ici. Il y a Outrio, Pablo Picasso, Pierre Macorlan. Tous les grands artistes, à un moment donné, ont commencé ici. Nous gravons des écrivains, des poètes.
Des littéraires, et puis il y avait des peintres.
Des peintres, oui.
Une grande aventure artistique pendant le 19e, 19e siècle. Et aussi, après, les auteurs compositeurs qui ont composé la chanson depuis le départ.
Oui.
Cabartier était un auteur ou grand amateur de chansons. Il chantait les chansons de Béranger, du Moyen-Âge, et puis il y avait des gens qui créaient des chansons. Et puis ça a continué, et les gens du théâtre, comme les Bains, qui ont commencé ici même,
oui.
Charles Dulin, qui a commencé ici, il a été remarqué ici, par un homme de salle. Et voilà, et puis Annie Girardot, le Pierre Brasseur, et puis aussi des chanteurs choses, qui avaient une voix lyrique, mais aussi des auteurs compositeurs comme Brassens, Nougaro, qui a passé 5 ans, Cosimo.
Donc, c'est un lieu de culture tout à fait prestigieux.
Et après, on continue tous les soirs. Et notre. Le Lapin Agile, c'est lié à la chanson, poésie, chanson, musique, ensemble. C'est plus spectaculaire. C'est ça l'expression artistique du Lapin Agile dans ce lieu, sans micro, sans. Et d'ailleurs, la mère de monsieur, qui est là, a chanté ici, elle a une carrière connue.
Michel Galland. Qui a chanté ici dans
les 70.
C'est une sorte de retour aux sources. Et aujourd'hui, c'est la parole de Don Quichotte. Il faut s'exprimer ici. C'est un grand privilège d'être dans ce haut lieu culturel. Et quand je dis haut lieu culturel, c'est aussi parce que nous sommes en altitude par rapport à Paris. Nous sommes peut-être dans le lieu le plus élevé du point de vue de l'altitude. De Paris, je ne sais pas à quelle altitude on est, mais on est très élevé.
C'est le fait que le Lapin
plus près du ciel.
qui est déjà un jeu de mots pour parler de peintre André Gilles. Là, à son roi, peintre à Gilles, André Gilles, bon, c'est le jeu de mots qui se représente lui-même. Mais j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps que le Lapin Gilles cachait un autre animal, c'est l'aigle alpin, en français. Et donc là, c'est plutôt sous cette. Le cabaret de l'aigle alpin, là, qu'on fait cette intervention, mais on reste quand même.
Voilà, Frédéric, il nous fait de la cabale hébraïque en cherchant les anagrammes dans le nom du cabaret.
Pour justifier qu'on a une place dans un cabaret, c'est pas très courant.
Ça s'appelle un kérikétib. Tu prends le mot, tu cherches tous les mots que tu peux écrire à partir des mêmes lettres en transloquant et tu trouves dans le mot un autre sens que celui qui s'y trouve.
Et ce qui fait qu'on prend un peu de recul d'altitude par rapport aux événements, par rapport aux symboles.
Donc, mes remerciements au Lapin Agile d'accueillir Don Quichotte. Enfin, Don Quichotte, c'est pas moi, je ne suis que l'éditeur des livres de l'exégète qui a fait les explications sur Don Quichotte. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la personne qui a écrit des livres sur Don Quichotte, je parle de Domenico Gil, qui a écrit une remarquable série d'ouvrages sur le thème de Don Quichotte, et comment elle a rencontré Don Quichotte dans sa vie, parce que ça n'est pas un sujet qui lui a été imposé par l'université ou par un directeur d'études qui lui a dit « il faut que tu travailles sur Don Quichotte ». C'est dans sa vie que ça lui est tombé sur la tête, pratiquement, puisqu'un jour, on lui a offert les deux tomes de Don Quichotte qu'elle a lus. Et comme c'est un auteur sérieux, qui avait déjà écrit une série d'ouvrages et de romans aux éditions du Seuil, une intellectuelle très sérieuse, elle a lu Don Quichotte et elle a trouvé ce livre intéressant, avec des choses bizarres à l'intérieur, mais tout le monde trouve que Don Quichotte est un peu bizarre. Et elle trouvait quand même que dans la structure, dans le plan de Don Quichotte, il y avait des phénomènes, une structuration tout à fait singulière, qui n'était pas linéaire, et qui était d'ordre systémique. Et pour un écrivain qui a l'habitude d'écrire des romans, c'est un phénomène qui mérite d'être étudié de près. Domenico Gil est aussi une personne qui avait un grand sens du symbolisme. Et un jour, alors qu'elle venait de finir de lire Don Quichotte, on lui a offert un livre qui s'appelle Le Zohar, qui n'a rien à voir avec Don Quichotte en apparence. Elle l'a lu aussi, et elle s'est trouvée que le hasard a voulu, ou la vie a voulu, que ces deux livres se rencontrent sur sa table de travail. Après avoir lu Don Quichotte, elle lit Le Zohar, et elle a trouvé que, ma foi, il y avait des rapprochements curieux entre les deux livres, mais qui n'ont pas été écrits au même moment, parce que Le Zohar est un livre de Kabbale hébraïque, et ça a été écrit à 400 ans de différence. En Espagne, tous les deux, mais pourquoi y aurait-il un lien entre les deux si c'était le fait que quelqu'un lui a offert les deux livres, deux personnes différentes lui ont offert le même livre et qu'elle se retrouve avec ses livres sur sa table de travail. Domenico Gil, dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire, c'est le 7 mai, c'était son jour anniversaire, c'est une date de libération qui a son importance aussi. Elle opérait toujours par cette technique de mettre les choses en relation les unes avec les autres. Rien n'est hasardeux, rien n'est dû à un phénomène de hasard. Les choses sont toujours liées d'une manière que nous ne connaissons pas, mais il faut trouver quel est le lien qui unit les choses. Bon, il y a d'autres esprits, ils sont nombreux, pour qui rien n'a jamais de relation avec rien. Ça, c'est l'esprit linéaire qui ajoute les événements l'un après l'autre et ils ne sont jamais liés les uns aux autres. Pour une initiée, tout est lié à l'intérieur d'une structure et les choses sont forcément articulées les unes avec les autres. Donc elle est partie du principe que si elle avait ces deux livres ensemble sur la table, eh ben, il y avait peut-être des choses à voir et que les éléments de l'un renvoient vers les éléments de l'autre. Elle a fait une sorte de lecture comparative. C'est un exercice de littérature classique, de prendre deux ouvrages et puis les étudier simultanément. Et elle s'est aperçue qu'effectivement, dans le texte de Don Quichotte, qu'elle a ensuite lu en espagnol, parce que dans la traduction, beaucoup de choses se perdent, en lisant dans le texte original de Cervantes, qu'elle avait sous les yeux, s'est bien aperçue qu'il y avait là des expressions, des tournures d'esprit, qui n'étaient pas du tout de l'ordre de la pensée ordinaire. Et elle a remarqué que dans le Zohar est un livre du kabbaliste Maurice Shenton de León, qui a vécu en Espagne au XIIe siècle. Et c'est un livre qui réalise la synthèse de la Kabbale, qui réalise une espèce de vision globale de tous les livres kabbalistiques qui ont été écrits avant lui, et il est considéré comme la somme de la connaissance kabbalistique. C'est une série de volumes, ça représente une montagne comme ça, en 6 volumes. C'est écrit en araméen dans l'original, mais ça a été traduit en français dans les années 1906, je crois. Et édité par Maisonneuve et Lagrange. Et c'est dans cette édition que Domenico Gil fait l'étude rapprochée entre le Zohar et Don Quichotte. Et elle a vu qu'il y avait bien des similitudes d'images, de langage, des expressions qui revenaient, au point qu'il lui semblait que Cervantes a peut-être lu ce livre curieux, le Zohar, écrit en araméen, et qu'il a transposé un certain nombre de choses dans son propre roman. Bon, ça c'était son intuition qu'elle allait le prouver, c'est difficile de prouver ce que Cervantes a pu lire. Elle en a parlé à l'éditeur du Seuil, M. Jean-Marie Dolnat, qui lui a fait rencontrer un grand érudit de la science hébraïque, un expert de l'araméen qui s'appelait Gerjanski, qui était une autorité mondiale de l'araméen. Il est venu la voir chez elle très rapidement et elle lui a soumis la problématique de Don Quichotte face aux Zohar araméens. Est-ce qu'il y a vraiment des relations entre les deux ou pas? Et Gerjanski lui a dit, ben, racontez-moi Don Quichotte, comment c'est construit. Alors elle lui raconte non pas l'histoire, mais la structure de l'histoire. C'est un personnage, un premier volume, un deuxième volume. Dans le premier volume, Don Quichotte fait un certain nombre de sorties. Il y a quatre sorties, quatre parties dans le premier volume de Don Quichotte. Et le deuxième volume de Don Quichotte est une extension de la quatrième partie du premier volume. Alors, est-ce qu'il existe dans la Kabbale hébraïque, dans le Zohar, ce concept des quatre éléments formant l'unité? Est-ce qu'il existe dans la Kabbale hébraïque le concept de droite et de gauche? Parce que dans Don Quichotte, on a toujours cette dualité droite et gauche. Vous avez Sancho, Don Quichotte, et vous avez continuellement des bifurcations où l'un mène une action pendant que l'autre dort. Où l'un mène une action et l'autre mène une autre. Vous avez des personnages féminins aussi qui sont au nombre de 7. Est-ce que ça a un rapport avec la Kabbale hébraïque? Et l'expert de Monsieur Gerjanski, lui a dit oui, ça a l'air, vous êtes en train de me résumer tous les concepts de la Kabbale hébraïque. Et ce serait de la Kabbale hébraïque si ça n'était pas en espagnol. Si c'était en hébreu, ça serait de la Kabbale pure. Elle a dit bon, oui, mais c'est de l'espagnol, mais est-ce qu'il n'est pas possible qu'un espagnol ait traduit ses concepts dans sa langue et qu'il ait écrit une œuvre en espagnol en reprenant les concepts issus d'une autre langue? Je dis oui, bien sûr, c'est faisable, à condition que la personne qui l'ait fait connaisse l'hébreu, l'araméen et l'espagnol. Et il lui a dit, bah, écoutez, il vous reste à écrire un livre et à faire toutes les recherches pour le trouver, parce qu'a priori, c'est faisable, et c'est le Zohar de Moé Shem Tov de Léon, et bien le livre de référence de Don Quichotte. Alors, bah, c'est tout à fait surprenant, parce que pour la connaissance classique, Don Quichotte est un roman de littérature classique que tout le monde connaît, mais allez deviner qu'à l'intérieur de ce Don Quichotte, il y a un autre livre qui est caché, et que Don Quichotte soit un livre crypté qui renvoie à ce livre, le Zohar, qui est écrit en araméen, et qui, à l'époque de Don Quichotte, était strictement interdit. Parce que à l'époque de Don Quichotte, de Cervantes, au XVIIe siècle, nous sommes en pleine Inquisition. L'État espagnol, dirigé par les rois et par l'Inquisition, a décrété l'expulsion des Juifs un siècle plus tôt. La tradition hébraïque est strictement interdite. Les textes sont brûlés. La Torah, le Talmud sont interdits, sont brûlés sur la voie publique. Et à côté, on dresse des bûchers pour brûler toutes les personnes hérétiques qui restent. Parce que l'expulsion des Juifs est intervenue en 1492, c'est-à-dire presque plus d'un siècle avant. Et 1492 a été la grande date qui a bouleversé la culture espagnole. C'est l'année où le califat de Grenade tombe, suite à la reconquête, ce qu'on appelle la reconquête des rois catholiques. La même année, les rois catholiques décident de l'expulsion des Juifs. Ils ont 3 mois pour quitter le pays, pour tout vendre et partir. Et c'est la même année que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Est-ce que tous ces trois éléments, sont liés l'un à l'autre? C'est bien possible. L'expulsion des Juifs est un moment très, très important parce que le judaïsme en Espagne est très ancien. Il remonte à l'époque de l'exil de Babylone. Donc le judaïsme était en Espagne depuis plus de 1500 ans déjà. Et il a imprégné l'Espagne très profondément de sa pensée, de sa culture, de sa langue, de sa civilisation et de ses livres. Ce qui fait que l'Espagne a été totalement imprégnée de culture hébraïque bien avant que le christianisme n'arrive et bien avant que l'islam n'arrive 1000 ans plus tard. Et du jour au lendemain, il est décidé que tout ce qui relève de l'hébreu est renvoyé, chassé d'Espagne, et tout le monde doit partir. Alors bon, on voit des cohortes, des files de juifs, d'israélites, qui quittent l'Espagne en pleurant beaucoup, en abandonnant tout, en vendant tout ce qu'ils peuvent. Et ils s'en vont en exil, ils s'en vont au Maroc, ils s'en vont au Portugal, ils s'en vont en Turquie, en Smyrne, dans l'Afrique du Nord. Ils s'en vont beaucoup en Amérique, dès lors que l'Amérique a été découverte. Et on se demande si l'expédition de Christophe Colomb ne serait pas liée à cette expulsion. C'est le grand exode, la grande expulsion du judaïsme d'Espagne, 1492. Mais Cervantes, lui, il intervient un siècle plus tard, pratiquement. Mais il y a un phénomène très intéressant, c'est que il y a d'une part les juifs qui quittent l'Espagne, mais il y a beaucoup de juifs qui ne quittent pas l'Espagne et qui pratiquent ce qu'on appelle l'exil intérieur. Vous avez des juifs d'Almeria poursuivis, ils vont se réfugier à Bilbao. Ceux de Bilbao vont à Alicante, et ceux d'Alicante vont à Barcelone, et ceux de Barcelone vont au Portugal. Et ils font une espèce d'exil intérieur où ils se déplacent, et personne ne sait trop qui ils sont ni où ils sont, dans une Espagne qui compte à peine 7 millions d'habitants à l'époque. Donc ils se sont cachés tout en restant dans le pays, et quelquefois en se convertissant d'ailleurs. Donc on se cache en acceptant la nouvelle religion et on continue de pratiquer l'ancienne religion en secret et en cachette. Les protestants en France ont fait la même chose au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Et ces juifs qui se sont convertis et qui sont restés, se sont cachés, ça continue de poser un problème au pouvoir qui est en place. Bien évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux autorités qui vont leur mener la vie dure, pour essayer d'abord de les repérer, de les faire partir ou de les éliminer. Et les juifs convertis, on les appelle les maranos, c'est-à-dire les maranes. C'est un surnom qu'on leur donne. Et un maran, en réalité, c'est un surnom qui désigne aussi le cochon. Alors, on appelle le juif le cochon parce qu'il n'en mange pas. C'est une espèce d'aversion sur une caractéristique sociale. On appelle une personne par un trait de comportement que l'on inverse. Vous ne mangez pas de cochon, ben je vais vous appeler le cochon. Et les maranes sont très nombreux. Et ils ont fait quelque chose de singulier. Ils se sont réfugiés dans les ordres religieux. Précisément parce que ce sont les ordres religieux qui se lancent à leur poursuite, ils se réfugient dans l'enclave même qui les pourchasse. Et vous avez dans Don Quichotte un passage où Sancho évoque ce phénomène. Quand ils viennent d'avoir une altercation avec des gens portant le San Benito, une espèce de bonnet pointu, qui sont des inquisiteurs, Sancho prend peur et suggère à Don Quichotte que peut-être la solution la plus idéale, ce serait d'entrer quelque part dans un monastère. Dans un monastère, pour se cacher, alors même que c'est des gens du monastère qu'ils ont mis à terre. Donc ça veut dire que Sancho était au courant de la procédure classique de se cacher à l'intérieur même de l'appareil répressif. Mais je vous parle de cette histoire des juifs convertis et cachés, parce que dans Don Quichotte, c'est la grande préoccupation de tous les personnages qui interviennent tout au long du roman. Ils sont tous, du début à la fin, en train de justifier leurs origines et leur lignage. Ils appellent ça leur lignage. Sancho, c'est son obsession que de dire tout le temps il est d'une vieille famille chrétienne, il a quatre doigts de graisse de vieux chrétien sur lui, il est vraiment le chrétien irréprochable. Il insiste tellement sur ce phénomène qu'on se demande mais pourquoi il insiste tant. Est-ce qu'il serait coupable de quelque chose? Pourquoi il se défend autant? Et peut-être parce qu'il n'est pas si clair que ça, Sancho non plus. Tous les personnages, on pourrait vérifier, il y a toujours une mention sur leur lignage, leur origine, et chacun se justifie toujours en prouvant qu'il est de bon lignage, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sang juif en lui. Il n'y a que Don Quichotte qui n'est pas clair par rapport à ça. Parce que lui, il reste prudent dans ses affirmations, et on peut faire une lecture de Don Quichotte en regardant de près le lignage de Don Quichotte, c'est-à-dire quelle est la filiation de Don Quichotte au niveau de ses origines. Et là, je vous propose d'entrer dans Don Quichotte directement par le titre. Le titre de Don Quichotte, ça n'est pas Don Quichotte, le titre c'est l'ingénieux Don Quichotte l'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche. C'est le titre entier du premier volume. Et le titre entier du deuxième volume, ce n'est pas le même titre, c'est l'ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche. Dans le premier volume, c'est l'ingénieux Hidalgo. Dans le deuxième volume, c'est l'ingénieux chevalier de la Manche. Si on lit le titre du premier volume, vous avez en espagnol El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ingenioso, c'est l'ingénieux. Et le mot Hidalgo, ça veut dire en espagnol hijo de algo, fils de quelque chose. C'est la contraction, ça, tout le monde le sait. Mais si vous l'écoutez en hébreu, Hidalgo, ça vous fait Rida Lego. Rida, c'est Reida, c'est une espèce de cri de joie. Ah, ça alors, super. Lego, Hidalgo, c'est Al, c'est le système divin. Al, ego, c'est dedans. Donc ça veut dire, c'est super, le système de Dieu est dedans. Mais il est dans quoi? Ben, dans Don Quixote, dans le livre. Et Don Quixote, ça veut dire quoi? Don, ça veut dire monsieur. Et Quixote, en espagnol autrefois, dans l'époque de Cervantes, on disait Quixote, parce que c'est un X, on prononce che. Et Quixote, ça veut dire la vérité en araméen. C'est un mot araméen qu'il a pris, qu'il a collé à son personnage. Et donc ça vous fait, ah ça alors, c'est super, la vérité du peuple de Dieu est dans ce livre. Mais dans Hidalgo, il y a un autre sens, si vous l'écoutez en entier, Hidalgo, ça vous fait Hidalgo, qui veut dire la ruse est dedans. Dans mon livre, il y a une ruse, et dans cette ruse, je vous cache le peuple de Dieu qui va vous dire la vérité, qui est choc. Vous voyez comment c'est crypté, là, son nom. Et le nom de Don Quichotte, il se le donne après une mûre réflexion, où il écrit qu'il a mis plus d'une semaine pour trouver le nom qui lui convenait. Et il dit que c'est un nom sonore qui a du sens. S'il dit qu'il est sonore, oui, ça sonne bien, mais qu'il a du sens, donc il faut chercher le sens du mot. Cervantes, il faut toujours le prendre au pied de la lettre. Quand il vous dit quelque chose, il faut y aller, il faut chercher le sens. Le sens, il est peut-être écrit dans cette langue interdite que lui connaît très bien. Et ensuite, il y a dans le titre, Il Reynoso, il a le Don Quixote de la Mancha, c'est donc la Quixote, la vérité de la Mancha. C'est quoi la Mancha dans l'histoire? Alors, en lisant les premières pages de Don Quichotte, on s'aperçoit qu'il se donne pour nom la Mancha parce que cela évoque son pays et son lignage. Et on retrouve cette problématique du lignage. Il se donne pour nom la région où il vit, la Mancha, parce que c'est sa patrie, son pays, mais aussi ça évoque son lignage. Qu'est-ce que la Mancha a à voir avec le lignage? On se pose la question. La Mancha, je comprends, c'est la région d'Espagne, au centre de l'Espagne, avec Ciudad Real comme capitale. Mais la Mancha, le lignage, qu'est-ce que ça a à voir? Et là, il faut écouter le mot espagnol qui vous dit la Mancha, que tout le monde connaît avec une majuscule, c'est la région espagnole. Mais Don Quichotte, Cervantes écrit la Mancha bien souvent avec une minuscule. Donc ça n'est plus la région, c'est le mot commun, la Mancha. Et la Mancha en espagnol, c'est la tache. La tache sur la chemise, ou la tache sur votre vêtement, ou la tache dans votre lignage. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, parce que c'est des critères que nous n'avons pas aujourd'hui. Que nous n'avons plus. Avoir la tâche dans le lignage, ça veut dire être compromis avec le judaïsme. Ça veut dire avoir le sang entaché. Parce qu'à l'époque de Cervantes, vous aviez les édits d'expulsion des juifs qui venaient d'être édités, et vous aviez la politique de la limpieza de sangre, qui consistait à prouver que vous n'aviez pas d'ancêtres juifs. C'est des choses qui se sont produites dans les années 1940, récemment, avec... Le régime de Vichy, qui, pareil, demandait aux gens de prouver qu'ils n'étaient pas juifs pour entrer dans la fonction publique. Il fallait prouver que ni vos parents, ni vos grands-parents, ni vos arrière-grands-parents n'étaient compromis de quelque manière avec le judaïsme. Donc vous deviez avoir, entre guillemets, le sang propre. Sinon, il était le sang impur, comme le chante notre chant national. Il y a un sang impur quelque part, je ne sais pas où, mais il y a quelque part une tâche qui entache le sang si vous êtes de la tradition israélite qui n'est pas acceptable. Donc il fallait prouver que vous n'étiez pas touché par la mancha. Et Don Quichotte, lui, il se donne pour nom, je suis Don Quichotte de la mancha. Ça veut dire que je suis celui qui va vous dire la vérité de ce qui est interdit. Donc de la mancha, donc il indique son lignage, qui a quelque chose à voir avec le lignage israélite. Le deuxième volume de Don Quichotte ne porte pas le même titre exactement. Le mot Hidalgo devient Caballero. El Ingenioso Caballero. Et dans le mot Caballero, vous avez le mot cabal qui saute aux yeux immédiatement. Et si vous regardez les lettres avec lesquelles il écrit Caballero, vous obtenez le mot Kabbalah de toute évidence. Et on retrouve là toute la dialectique entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est un tome où Don Quichotte, il fait les gestes, il fait tout son symbolisme, et dans le tome 2, Cervantes est beaucoup plus explicatif et beaucoup plus lourd dans son style. C'est moins. Le deuxième tome est moins drôle que le premier. Il est plus grave. Il entre plus dans les détails. Et on voit aussi dans le deuxième tome que Sancho devient un personnage beaucoup plus important que dans le premier. On peut continuer de travailler juste sur le titre de Don Quichotte. Et on peut s'apercevoir que, vous savez, en hébreu, l'hébreu s'écrit juste avec les consonnes. Il n'y a pas de voyelles en hébreu. C'est que les consonnes. Donc, vous prenez le titre, Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, et vous prenez le mot Ingenioso que nous n'avons pas encore analysé jusqu'à présent. Vous écrivez le mot Ingenioso en ne prenant que les consonnes du mot. Ça, vous gardez donc le N, le G, le N et le S. Vous avez enlevé toutes les voyelles. Et vous écrivez Hidalgo, pareil, vous enlevez les voyelles du mot Hidalgo. Et vous avez H, D, L, G. Alors, vous regardez, est-ce que ça vous donne quelque chose? Avec les caractères latins, ça ne vous donne rien. Mais vous faites la transposition du caractère latin en caractère hébreu, et là, vous obtenez la lettre Nun pour N, la lettre Gimel pour le G, le deuxième N devient Moon et le S devient sa mère. Et vous faites pareil pour Hidalgo, vous faites le H de Hidalgo devient un He en hébreu, le D devient Dalet, et le L devient la mère, et le G devient Gimel. Alors vous avez un mot, deux mots hébreux qui sont visibles clairement. Vous avez Nun, Gimel, Nun, c'est le triplé de Ingenioso. On laisse tomber le S pour l'instant. Et ça veut dire le jeu de jouer. Le jeu. Vous ajoutez le S, le Samer, ça veut dire l'acteur. Donc c'est l'acteur du jeu ingénieux. Ça complète le sens de Ingenioso. Donc il y a dans l'ingénieux Don Quichotte un acteur qui joue un jeu ingénieux. Et le mot qui est écrit avec les lettres et qui consonne du mot Hidalgo, c'est un mot qui exprime l'idée de faire sortir, exprimer, donner à voir. Donc ça vous donne, avec les mots hébreux dans le titre, que c'est un jeu ingénieux joué par un acteur qui va vous exprimer tout le sens de la vérité émet et de Quichotte, de la vérité de la Mancha. Alors il dévoile tout son programme dans le titre, à condition d'accepter que c'est un titre bivoque qui fonctionne en espagnol et qu'à l'intérieur, de manière subliminale, vous avez des mots. Alors bon, il y a des esprits chagrins qui diront « c'est impossible, ça ne peut pas fonctionner, ça n'existe pas, ça n'est pas admissible, c'est une fantaisie que j'invente. » Bon, on peut tous connaître deux langues, et les gens qui pratiquent couramment deux ou trois langues, quand ils se rencontrent, ils peuvent très bien envoyer un message dans une langue alors qu'ils pensent avec les mots de l'autre, et glisser les mots de l'une dans l'autre. Et ceux qui parlent les trois langues en même temps se comprennent entre eux, et ceux qui ne sont pas dans la confidence, ils sont là, ils planent un petit peu dans la conversation. Et c'est un jeu qui se fait couramment quand les personnes en exil se rencontrent et parlent une langue qu'ils ont en commun entre eux, dans un contexte qui n'est pas favorable à la langue interdite. Moi, je peux parler d'expérience parce que je suis d'origine alsacienne et dans mon village, tout le monde parlait le dialecte, mais qui était strictement interdit à l'école. Donc, dans la cour d'école, c'était interdit, mais on se trouvait, on était gamins, on trouvait toutes sortes d'astuces pour utiliser les mots alsaciens à travers des expressions françaises. Mais on était toujours en règle puisque on parlait le français. Et c'était une espèce de combinaison qui permettait d'ouvrir, de braver l'interdit pratiquement. Et Don Quichotte, Cervantes, c'est ce qu'il fait, il brave l'interdit en nous mettant de l'hébreu justement en titre de son propre livre. Ceux qui le comprennent, ben, ils devaient être un peu surpris. Les inquisiteurs ne l'ont pas vu, ou ceux des inquisiteurs qui l'ont vu ne l'ont pas vu. Ça aussi, c'est une possibilité. Dans le deuxième titre du deuxième volume, vous avez El Reynoso, vous avez de nouveau la même correspondance, le jeu de l'acteur, qui maintenant va utiliser les critères de la Kabbale et qui va nous montrer de quoi est fait le secret de la magie. Et c'est sur ce titre que commence l'aventure de Don Quichotte. Alors maintenant, comment va-t-il déployer tous les secrets de la Kabbale dans le roman ? Eh bien, il suffit d'ouvrir la première page et de voir ce que fait Don Quichotte. Tout au début, il est chez lui, il trouve des armes quelque part dans un hangar de sa maison. Et la première chose qu'il fait, c'est de nettoyer les armes. Il enlève la rouille de ses armes abandonnées. Les armes, ça correspond à un verset de la Torah, Ésaïe. Ce sont les armes de l'Éternel. Les armes de l'Éternel, c'est la connaissance. C'est pas l'épée métallique, ce n'est pas l'objet en soi. C'est toujours l'objet qui désigne le symbole. Et le symbole qui... Eh bien, il faut savoir à quoi il correspond. Il faut, avec Cervantes, toujours être attentif à sa technique d'écriture. Il vous donne le mot espagnol, les armes, armas. Ce mot espagnol, soit il vous renvoie directement à une idée que vous pouvez trouver dans la Torah, soit il vous renvoie à un mot hébreu que vous traduisez. Vous avez le mot hébreu. Ce mot hébreu, vous cherchez où il se trouve dans les textes sacrés. Alors vous cherchez ou dans la Torah ou dans le Zohar. Ensuite, quand vous êtes avec ce mot hébreu dans le Zohar ou dans la Torah, vous retrouvez un verset, et ce verset que vous lisez vous donne l'idée que Cervantes avait au départ. Son cryptage, il fonctionne tout le temps comme ça, par un système de renvoi et de dérivation sémantique sur un mot espagnol qui renvoie à l'hébreu, et l'hébreu vous renvoie à la Torah vous donne l'idée du livre. Alors ça vous fait un livre en trois dimensions. On n'est pas obligé de connaître la Torah par cœur pour le trouver. Parce qu'il existe ce qu'on appelle une concordance, qui existe aussi d'ailleurs pour le Coran. Ça vous permet de trouver, c'est une sorte de dictionnaire qui vous permet de trouver à quel endroit se trouve tel ou tel mot dans le texte. Et vous avez tous les versets dans lesquels apparaît ce mot. Et Cervantes a dû utiliser une concordance qu'on trouve encore aujourd'hui dans le commerce. Il n'avait pas l'internet, mais il y avait des outils de travail tout à fait performants qui fonctionnent encore aujourd'hui. Alors, une fois qu'il a fourbi ses armes, il a un bouclier qu'il appelle la rondacha antigua. La rondacha, c'est l'espèce de bouclier rond qu'il a. Et la rondacha antigua, c'est de l'hébreu, direct. Vous avez le mot rondacha, c'est ron. Ron, c'est la joie. Da, c'est la lettre d'alet qui évoque la porte. Et cha, c'est le verbe shana, qui c'est ouvrir, partir, sortir. Donc c'est la joie d'ouvrir la porte et de sortir. Antigua, c'est la vieille, l'ancienne. Il est heureux, il a la joie d'ouvrir l'ancienne porte et de sortir. Et on verra que dans Don Quichotte, son grand sujet, son grand projet, son idéal, c'est l'idée de sortir, de partir. Sortir de sa maison, sortir dans le monde, vivre les aventures, sortir par l'ancienne porte. Alors l'ancienne porte, c'est bien évidemment la connaissance antique que lui, il a accumulée, c'est-à-dire la Torah, les Talmud, tout ce qu'il a ingurgité dans les livres. Et ben, c'est de l'emmagasiner et de partir dans le monde pour le mettre en œuvre. Don Quichotte est un homme d'action. C'est un homme de livres qui accumule la connaissance et qui va la mettre en œuvre dans le monde. C'est en ce sens qu'il est un acteur de prophétie et de messianisme aussi, puisqu'il va transmettre le message à l'extérieur. Sortir, c'est son grand thème. Alors, une des premières choses qu'il fait pour rassembler son armure, il a le casque. Il se fabrique un casque, le morion. Ils appellent ça le morion en carton. Il met une semaine pour se fabriquer ce casque. Il est très content, puis il va essayer d'éprouver la solidité de son casque. Alors il donne un coup d'épée dessus pour voir si ça tient. Et malheureusement, son casque part en morceaux. Donc il va en refaire un deuxième. Et cette fois, dans le deuxième casque, on s'aperçoit que Don Quichotte fait toujours tout deux fois. C'est une technique aussi, ça. Il a l'habitude de répéter, il fait des redoublements sans cesse. Parfois, il les fait tout de suite l'un après l'autre. Et parfois, c'est à plusieurs chapitres d'intervalle, on le voit revenir sur un thème ou sur une idée, mais il ne renonce pas facilement. Il fait tout deux fois, et le coup de faire les choses deux fois en deux temps, c'est une technique totalement répertoriée par les kabbalistes, et ils connaissent ça très bien, c'est une loi de l'herméneutique hébraïque, qui s'appelle le Davar Shanoï, qui veut dire « dire deux fois ». Et dans la Torah, vous avez quantité de versets où il est dit que Dieu fait les choses en deux temps. Nous, on aperçoit l'acte tel qu'il s'est concrétisé, mais en réalité, à l'intérieur, la chose se produit en deux temps. Dominique Aubier appelait ça le bic et le banc. À l'intérieur d'un cycle, il y a toujours deux instances, une première et une deuxième, et Sancho la met en œuvre. C'est sa technique, et c'est une technique qu'on peut pratiquer, nous, dans la vie de tous les jours. Le bip, la première instance, c'est l'information, la seconde instance, c'est la concrétisation de la chose. Donc Cervantes et son héros Don Quichotte, quand il fait son casque, il le fait en deux temps. Une première fois, une instance légère, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, c'est du carton, ça. Il essaye. Ça ne tient pas, il refait une deuxième fois, mais la deuxième fois, il va insérer des barres de fer à l'intérieur du casque. Et là, c'est très intéressant comme détail. Il faut faire attention à ce genre de détails. Il met à l'intérieur de son casque, pour qu'il soit bien solide en deuxième temps, donc pour que ce soit un casque définitif, il met à l'intérieur des barres de hierro, des barres de fer. Alors il faut se demander, là il faut avoir l'esprit un peu dégagé, là, se demander, est-ce qu'il y a dans la culture hébraïque quelque chose qui a été détruit une première fois et qui a été reconstruit une deuxième fois ? À l'image du casque que se fabrique Don Quichotte. Bon, sans avoir une grande culture hébraïque, il suffit d'avoir un petit peu lu les textes. On se dit, oui, c'est une allusion au temple de Jérusalem. Il a été détruit une première fois sous l'empire de Nabucodonosor, au moment de l'exil de Babylone, et il a été détruit une deuxième fois par les Romains sous l'empire de Titus. Donc il y a cette allusion, cette ressemblance en tout cas, une analogie qui serait possible. Mais bon, ça c'est moi qui l'ai fait. Parce que je me rappelle, oui, il y a quelque chose qui a été détruit. Il faut le prouver. Est-ce que c'est à ça que pensait Cervantes quand il parle de son casque qu'il a fait une fois, puis une deuxième fois ? Alors on peut mener l'enquête pour savoir si c'est bien ça. Vous voyez, à l'intérieur du Quichotte, il y a des enquêtes à mener. Ce n'est pas juste l'histoire qui se défile comme ça, qui se déroule. Il fait son casque, il se met sur la tête, il va partir. C'est le casque a toute une histoire. Quel est ce casque qui se met sur la tête ? Si c'est une allusion au temple de Jérusalem, il faut que Cervantes lui-même me le dise. Il ne suffit pas que moi, j'ai une idée comme ça en passant, où ça me fait penser « Ah, ça ne suffit pas ». Il faut que j'ai la preuve. Et l'auteur doit me la donner, la preuve. Et l'auteur ne peut me donner la preuve que par sa propre écriture et par les mots qu'il a choisis. Donc, je vais regarder de près l'expression qu'il utilise « Baras des hierons ». Alors, je regarde le mot « Baras », qui veut dire « les barres de fer ». Bara, c'est un mot hébreu qui veut dire cependant. Et cependant. Et c'est un mot qu'on retrouve dans un verset. Et là, il utilise la technique que je viens de vous expliquer. Il prend le mot espagnol baras. C'est un mot qui fonctionne aussi en hébreu. Ce mot hébreu, vous le retrouvez dans la Torah, au chapitre de Esdras, au verset 5-13. Alors, normalement, vous prenez la Torah, vous cherchez, et vous trouvez 5-13. Et c'est un verset où justement il est question du temple de Jérusalem. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans le mot baras qui fonctionne en hébreu et en espagnol. Bon, ça peut être un hasard aussi, donc quel est le rapport. Mais si je me souviens bien du temple de Jérusalem, il a été détruit une première fois. Et à l'époque, les Juifs sont en exil et c'est la catastrophe pour la culture hébraïque parce que le temple est détruit. Ça veut dire que l'édifice, le bâtiment dans lequel se retrouvait le peuple et le bâtiment où se trouvent tous les symboles, l'alliance, l'arche, tout ça est détruit. Donc ils n'ont plus de symbolisme autour duquel se rattacher, se raccorder. Et pour tuer un peuple, il n'y a pas mieux que de tuer ces symboles. On tue une pyramide, on tue un temple. Et bien c'est avec ça qu'on extermine les peuples. On les attaque à la culture, au noyau de leur culture. Les Hébreux, les Israélites, ils avaient le temple détruit, mais ils avaient une chance, c'est que le temple lui-même a été construit sur les critères de la Torah, qui est antérieure au temple. Donc le véritable édifice, ce n'était pas le temple de pierre, mais c'était les textes. Et c'est ça qui fait la force de la culture hébraïque, ce sont les textes. Donc les Hébreux sont en exil à Babylone, il n'y a plus de temple, c'est fichu, mais ils ont toujours les textes. Et quand ils arrivent à Babylone, c'est la deuxième catastrophe, ils s'aperçoivent que les rouleaux des textes ont été perdus. Donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus que la mémoire des anciens qui se souviennent du texte par cœur. Et à l'époque, les prophètes se réunissent et se disent, ça y est, c'est fichu, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Par chance, les rouleaux sont retrouvés. Mais ils remarquent qu'ils ont eu chaud et que si les textes n'avaient pas été retrouvés, c'était perdu pour toujours. Et comme ils connaissent la règle du redoublement, du bip et du bop, ils se disent, ils ont été perdus une première fois, ben la deuxième fois ne manquera pas d'arriver. Et si le temple a été détruit une première fois, il le sera une deuxième, si jamais il est reconstruit. Et donc les rouleaux seront peut-être perdus une deuxième fois, il faut donc faire quelque chose pour que ça n'arrive plus. Et c'est là que Esdras et les prophètes décident d'écrire des textes, et des textes dans lesquels ils donnent des prescriptions à chaque habitant, à chaque Israélite, de sorte que chaque Israélite devienne lui-même le porteur du temple. Il n'y a plus de bâtiment à l'extérieur, mais il devient lui-même le porteur du temple, par son comportement, par ses habits, par ses habitudes, par sa nourriture. Dans la tradition hébraïque, la personne qui veut vraiment être totalement israélite, orthodoxe, elle est prise dans un carcan pratiquement infernal, je dirais, de rites, de gestes. Du matin au soir, il ne peut qu'obéir à tout ce qui est prescrit. C'est impossible à vivre. Il ne peut pas manger ci, il ne peut pas manger ça. Les textes prévoient même la façon de nouer ses chaussures. Tout est prévu, tous les gestes, mais il n'y a pas d'explication dessus. Les prophètes se sont bien gardés d'expliquer, ils ont simplement prescrit ce qu'il fallait faire en se disant qu'un jour quelqu'un l'expliquera, peut-être dans 3000 ans, puis on verra. Mais en attendant, chaque Israélite devient à lui-même le temple qui a été détruit à l'extérieur, et s'il le porte sur lui-même, il ne peut plus être détruit. Et même s'il oublie les textes, il continue d'être porteur du symbolisme, et un jour, quelqu'un dans les temps futurs viendra expliquer ce symbolisme. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils mettent au point tous les vêtements, le talit dont on se recouvre lors du Shabbat, tout le rituel du Shabbat est précisé à ce moment-là. Et ce qui est aussi inventé à ce moment-là, ce sont les téphilines. Les téphilines, ce sont ces lanières de cuir qu'on se met autour du doigt puis du bras. Et les téphilines qu'on se met autour de la tête, une lanière de cuir qu'on se met sur la tête, et un petit cube sur le front. Et à l'intérieur de ce petit cube, il y a des petits compartiments. Et dans les compartiments, il y a un petit texte en hébreu qui contient un verset dans lequel apparaît le Shin à quatre branches. C'est pour se rappeler qu'il y a quatre niveaux d'organisation, il faut se souvenir de ça. Et c'est un élément du temple que la personne porte sur elle-même, sur le front. Là, Don Quichotte, qu'est-ce qu'il se met sur la tête? Il se met sur la tête un casque avec des barres de fer qui forment des compartiments. Alors finalement, ce qu'il se met sur la tête, ce n'est pas un casque de fer, c'est un casque de carton qui s'est fabriqué. Ben, comme les téphilines, c'est du carton entouré d'une lanière de cuir. Et en fait, le casque que Don Quichotte se met sur la tête, ce n'est rien d'autre que la téphiline de tête qu'il s'enroule Et après, il est très content. Et l'histoire de cet éphiline, il ne va pas dire dans son roman que son héros a saigné les téphilines. S'il écrit ça, il passe au bûcher tout de suite. Mais il emploie le langage codé en disant c'est le casque lui-même se construit avec des barres de fer. Les barres de fer, Barras vous renvoie à Jérusalem, c'est le temple. Le temple a été détruit comme le casque, il se le reconstruit. Et donc il se reconstruit le concept qui se met sur la tête. Et le deuxième casque, il ne va pas le casser. Il se dit, ça suffit une fois, on ne va pas l'éprouver une deuxième fois. La deuxième preuve qu'il fait allusion au temple de Jérusalem avec l'histoire des barres de fer, c'est que l'expression entière, c'est Barras des Hierans. Alors vous avez le mot Barras, on l'a vu, et ensuite on a le mot Hierant. Qu'est-ce que c'est Hierant ? Ben, c'est le fer. Et là, il faut se dire qu'on est devant une énigme, Hierant. C'est le fer, il y a peut-être autre chose devant. Cervantes, avant de nous mettre devant une énigme, il nous donne toujours la solution avant. Il nous donne toujours la clé avant de nous mettre en face du problème. Le problème là, c'est Hieron. Donc avant, et on est au début du roman. Ça veut dire que avant le premier chapitre, il nous a déjà donné la clé. Cassez un peu la tête, puis tout à coup, vous avez la lumière qui vous vient et qui vous dit, mais oui, il a déjà fait. Il nous a déjà donné une solution, une piste. Vous prenez tout au début de Don Quichotte, avant que l'histoire ne commence, il écrit une série de poèmes, 12 poèmes, et le tout premier poème de Cervantes qui commence son livre, c'est un poème dédié à Urgan de la Méconnue. Et ce poème est très bizarre parce que chaque vers, c'est écrit en rime, bien évidemment, et chaque vers se termine par une rime, mais le mot est toujours coupé en deux. Il vous manque toujours la dernière syllabe. Et tout le poème est écrit de cette façon, avec des syllabes manquantes. Alors, la personne qui connaît l'espagnol, il n'y a aucun problème, un enfant de 10 ans trouve la syllabe manquante. Il dit ceci est une chaise, ceci est une tare bleue. C'est très facile. C'est des mots simples. Mais pourquoi il fait ça? C'est pour amuser le lecteur? Bon, c'est... Oui, je veux bien. C'est pour nous mettre en communication avec lui dans un style interactif. Je dois compléter par les syllabes qui manquent. Alors pendant deux pages, ben vous complétez, vous ajoutez chaque fois la syllabe qui manque. C'est un jeu très marrant. Mais avant tout, c'est une technique de lecture qui nous invite à avoir. Ça veut dire que vous le faites ici, je vous indique exactement ce que vous devez faire compléter. Mais peut-être que plus tard dans le roman, il faudra faire la même chose sur d'autres mots cachés dans le texte où je vous indiquerai le début du mot et c'est à vous de trouver la moitié du mot qui manque, comme dans le poème. Et il y a plusieurs endroits où on se retrouve face à ce genre de mot dont on a l'impression qu'il nous a donné une moitié du mot. Il faut donc se souvenir du poème du début qui nous indique sa technique de lecture. Et dans ce poème, il nous dit qu'il faut le lire d'une façon spéciale, parce qu'il y a une des strophes dans ce poème où il dit « Tu ne graves pas sur l'écu des hiéroglyphes inutiles ». Ça veut dire « Je n'écris pas ce poème pour rien, et les hiéroglyphes, ce sont des signes d'écriture, ils ne sont pas inutiles, tu devras donc les décoder ». Et dans ce... Dans cette phrase, tu ne graves pas sur l'écu des hiéroglyphes inutiles, vous tombez sur le mot hiéroglyphe. Vous dites, tiens, hiéroglyphe, c'est drôle. Parce que, avec le chapitre du casque qui se met sur la tête, je suis tombé sur le mot hiéron. Hiéron au chapitre 1, et dans le poème, c'est hiéroglyphe. Donc j'ai deux fois hiéron. Est-ce que c'est le mot hiéron qui serait codé? Dans le poème, la moitié que Cervantes nous indique, c'est glyphe, c'est hiéron plus glyphe. Donc j'ai, dans le chapitre du casque, j'ai le casque de fer, le casque en hiéron. Hiéron plus quelque chose. Plus quoi? Quelle est la deuxième moitié que je dois ajouter au mot hiéron pour obtenir la solution à mon énigme des barres de fer? J'écoute le mot hiéron en hébreu, ça me fait hiéron. l'hébreu. Et si je connais un petit peu l'hébreu de base, quand je dis Yéro, à quoi tu penses? Ben, je pense à Yéro Shanaïm. Je vous ai donné la première moitié du mot, et la deuxième moitié, ben, ça vient automatiquement quand vous connaissez le mot ou la ville. Donc c'est les barres de fer. Baras, c'est déjà une allusion au temple de quoi? Le temple de Jérusalem. Et de fer de Yéro, ben, c'est les barres de Jérusalem. Donc c'est bien une allusion au temple de Jérusalem. Ça veut dire que, à deux reprises dans la même expression, vous retrouvez l'allusion au même endroit, sur le même terme, donc vous êtes certain que dans ce moment-là, Cervantes, il traite du temple de Jérusalem et que c'est bien le téphilim qui se met sur la tête. Vous voyez comment c'est crypté cette affaire-là? Lui, il met juste Baras des Hérons, puis il compte sur vous. Oui, mais le lecteur, lui, il sait que Baras, c'est Esdras 5.13. Et puis Yéro, oui, il va trouver tout de suite que Yéro, c'est Yerushalayim. Et puis il va faire tout ça ensemble en 5 secondes. Que, si vous connaissez les trois langues, ben, ça se fait à la vitesse de la conversation. Mais après, pour l'expliquer, hein, ça m'a pris 20 minutes. Vous voyez le problème? Il faut remuer tout ça en faisant comme si vous le saviez déjà. Moi, je l'explique. Mais moi je ne l'ai pas trouvé tout seul. C'est Dominique Aubier qui me l'a dit. C'est elle qui a fait l'enquête, qui a mené l'enquête, qui a vérifié, qui est allée chercher dans la Torah, qui a cherché toutes les ramifications, qui a vérifié et qui a écrit le livre dans lequel c'est écrit. Moi, je ne sors pas d'un chapeau. C'est pas un lapin agile qu'on tire d'un chapeau, parce que, en réalité, le lapin, il était déjà dans le chapeau. Moi, je fais juste apparaître ce soir devant vous. Alors, tout Don Quichotte est écrit comme ça. Hein. La quantité d'allusions comme ça qui vous ramène araméen, hébreu et parfois aussi sur l'arabe. Il continue ses aventures. Il a donc son casque sur la tête. Il part et la première chose, il chevauche tout seul. Parce qu'au début, Sancho n'est pas encore avec lui. Sancho n'arrivera que dans la deuxième partie, à partir du chapitre 7. Donc les 6 premiers chapitres, il est seul. Il chevauche, il sort dans la plaine de Montiel. C'est le nom de la plaine. Montiel, c'est un mot hébreu aussi. C'est Manatiel. C'est ma part du système divin. Donc il est avec, sur son cheval, Rocinante. Et il est accompagné d'un chien qu'on voit juste au début, qui ne réapparaît pas après. Il est accompagné d'un chien qu'on appelle un galgo corredor, un chien coureur, une espèce de lévrier qui court à ses côtés. Là, vous avez le mot galgo, c'est gal, je découvre, go, c'est dedans, et corredor, c'est la mesure, red, c'est descend, et dor, c'est la génération. Donc galgo corredor, c'est je découvre ce qui est dedans. Dans le livre. Je vous montre ce qui est dans mon livre, et c'est une mesure qui va descendre sur la génération des lecteurs qui vont lire ce livre. Et le chien, c'est le symbole du message qui va être divulgué tout au long du roman. Il chevauche et il arrive en fin de journée. Il ne s'est rien passé d'ailleurs. La nuit tombe et il arrive à l'auberge. Il ne sait pas que c'est une auberge. Il voit au loin une petite lumière, et il s'écrit « Ah, c'est la lumière de ma rédemption !» Qu'est-ce que c'est que cette expression, la lumière de ma rédemption? C'est une expression qui sort du Zohar, c'est du copier-coller, je dirais. Il arrive à cette auberge, dont il ne sait pas que c'est une auberge. La première chose qu'il remarque, c'est que quand lui, il arrive, en même temps arrive un personnage qui souffle dans une trompette et qui réunit autour de lui un troupeau de cochons. C'est un porcher qui est là avec son troupeau. Et il trouve que c'est un très bon présage que de voir un garçon là qui garde ses cochons. Et là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut replacer cette scène dans le contexte de l'Inquisition de l'époque où il dit Cervantes. On est dans une époque où tout le monde est anxieux et inquiet de savoir quel est son lignage, quelle est sa descendance, est-ce que je me sens juif ou pas juif, est-ce que je suis hérétique ou pas. Ceux qui le sont doivent se cacher absolument. Et à l'époque, on appelle, comme je vous l'ai dit, Les juifs sont les juifs convertis cachés sont appelés les maranos, autrement dit les cochons. Or, dans cette scène apparaît un troupeau de cochons gardé par un gars qui arrive là avec sa trompette. Et ce qui titille l'attention du lecteur à cet endroit-là, c'est que Cervantes, il ajoute une espèce de parenthèse très bizarre à ce moment-là. Au moment où il dit qu'il arrive un troupeau de cochons, il met entre parenthèses « Je vous demande pardon parce que c'est ainsi qu'on les nomme ». C'est dans le texte de Cervantes, c'est pas moi qui l'avance. Excusez-moi, c'est ainsi qu'on les nomme, c'est des cochons. Pourquoi il s'excuse d'utiliser cette terminologie pour désigner un animal? Ça n'a pas de raison de s'excuser. Et quand il dit « c'est ainsi qu'on les nomme », c'est qui les? C'est une allusion directe à certaines personnes qu'on nomme les cochons. Donc, il arrive à cet endroit-là, et arrive à ce moment-là, un troupeau, une assemblée de juifs, c'est clair, dirigé par un personnage qui souffle dans une corne. La corne, c'est le chauffard des Hébreux. Le chauffard, c'est la corne dans laquelle souffle Moïse quand il rassemble des juifs. Donc il arrive au moment où un rabbin, parce que c'est un rabbin qui souffle dans la corne, un rabbin qui arrive avec sa petite communauté en même temps que Don Quichotte. Et comment une communauté de juifs interdits, proscrits par la loi, peut-elle se réunir, se rassembler là? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? À quelle occasion les juifs se retrouvent-ils ensemble? Ils vivent tous en cachette, dans leur maison, secrètement, puis voilà un jour où ils se retrouvent tous ensemble. Eh ben, normalement, c'est le jour du Shabbat, pour faire ensemble le rituel du Shabbatique. Si c'est le Shabbat, alors on peut se demander si l'auberge en question n'est pas une synagogue cachée, secrète, et que l'aubergiste, c'est celui qui s'occupe de la synagogue. Celui qui souffle dans le chauffard, c'est un rabbin. Alors, est-ce que c'est moi qui extrapole, qui pars dans une divagation? Il faut revenir au texte de Cervantes et voir s'il y a une preuve dans le texte de Cervantes. Et bien, tout à coup, Cervantes nous dit, eh bien, toute cette histoire se passe un vendredi soir. Et bien, attendez, à quoi ça sert qu'il nous indique que c'est un vendredi soir? Ça sert à rien. Dans un roman moderne, on dirait à l'auteur, ben, tu effaces ça, ça sert à rien, ça ne fait pas avancer la dramatique du roman. C'est totalement inutile, puisqu'après, on ne nous dit pas qu'on est samedi ou dimanche, c'est inutile. Ben, il nous dit c'est vendredi soir, parce que le Shabbat commence le vendredi soir. Et c'est pour ça que lui, voyant la petite lumière au fond, il s'est dit, la nuit tombe, il faut que je trouve un endroit pour me réfugier, là, et ça va être le Shabbat, ben, c'est peut-être là qu'il faut aller vers la lumière. Et il se précipite vers la lumière, et un des préceptes de la tradition hébraïque, c'est de se précipiter vers le Shabbat. On n'attend pas que le Shabbat arrive, on va vers lui. Et c'est ce que fait Don Quichotte quand il va à l'auberge. Il accélère, il veut arriver avant la nuit, et il arrive au moment où on va se réunir une petite communauté de juifs cachés qui vont sans doute célébrer le Shabbat. Une autre preuve, c'est que il suffit de regarder le repas que va s'offrir Don Quichotte. C'est un repas typiquement shabbatique. Il va manger des poissons et l'aubergiste va lui offrir des poissons très bizarres, de la morue. Il n'y a que de la morue à manger et de la truite. Et l'aubergiste lui propose de la morue qui porte des noms différents selon la région où elle a été attrapée. Alors il lui dit qu'il y a du poisson du abadero, du bacalao, du curadillo et de la truchuela. Mais c'est chaque fois de la morue, c'est le même poisson, mais des mots différents. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Abadero, bacalao, curadillo, ça sert à rien dans le roman. Des espèces d'attardements où normalement le lecteur tourne la page et se dit bon, on verra bien la suite de l'aventure. Mais c'est justement là qu'il faut s'intéresser et se dire c'est là que ça se passe. Parce que ces mots ont l'air inutiles. Ben justement, ils ne le seront pas. Alors, on prend le mot qui désigne le premier poisson, c'est la morue, mais c'est dans une région d'Espagne, on dit le mot abadero. Abadero, en hébreu, c'est abadero. Abad, c'est le serviteur, et dero, c'est l'espagnol, je reste. Je reste le serviteur, je suis le serviteur. Le deuxième poisson, c'est bacalao. Bah, c'est bécolant, c'est de la voix, dans la voix. Donc ça nous fait « Je suis le serviteur dans la voix ». Après, vous avez le troisième poisson, c'est « Cura Dio ». Cura, c'est le verbe « lire ». Et « Dilo », c'est l'encre. Je lis l'encre. Donc c'est « Je suis le serviteur dans la voix qui lit l'encre ». Les trois mots, les noms des poissons sont dans un paragraphe. Hein. Ils ne se suivent pas. C'est le lecteur qui doit sortir les noms des poissons et les mettre l'un après l'autre. Et ensuite, chercher la correspondance hébraïque. Et après, vous avez une phrase qui sort. Donc c'est « Je suis le serviteur dans la voix qui lit l'encre ». L'encre de quoi ? Il lit une trouchouelle. Et là, il y a un jeu de mots sur le mot trouchouelle, parce que trouchouelle, c'est le diminutif qui désigne la morue. Mais dans trouchouelle, vous avez aussi la troucha, qui est la truite, espèce de combinaison des deux mots. Le quatrième poisson, c'est la trouchouelle. Et vous le décomposez et ça nous fait la Torah chouela. Donc c'est la Torah et chouela des renards. Alors, vous mettez les quatre poissons l'un après l'autre et ça vous donne « Je suis le serviteur dans la voie qui lit l'encre de la Torah des renards. » Les renards, c'est qui ? Ben, c'est les juifs cachés. Ils sont rusés, ils se cachent, ils doivent se dissimuler. La Torah, c'est leur livre qu'ils viennent lire parce que c'est le Shabbat. Et lors du Shabbat, on lit des chapitres de la Torah. Et celui qui veut le lire, c'est Don Quichotte lui-même qui dit « Je veux lire un chapitre de la Torah. » Et ensuite, il lui dit « Je ne veux pas une trouchouela, qui est un diminutif. Apportez-moi une troucha entière. » Ça veut dire « Apporte-moi donc la Torah en entier, que je la lise. » Alors vous voyez comment avec les mots de poisson, bizarrement codé, vous retrouvez les mots hébreux qui vous donnent une phrase en entier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je peux décrire un roman avec des concepts pareils. Je ne sais pas s'il y a un écrivain de nos jours qui est capable de concevoir ce genre de choses. C'est invraisemblable. Ça vous donne un livre en quatre dimensions. Hein. Je ne sais pas comment il a pu le penser, ou plutôt comment ça s'est pensé en lui pour le faire. Je crois qu'il a été extrêmement inspiré. Et que c'est sorti d'une façon très spontanée, très inspirée, mais aussi très réfléchie, parce qu'il fallait quand même le maîtriser et le connaître. Il va lire, il propose donc la lecture de la Torah, à l'époque où on nous dit que la Torah est détruite, il n'y a pas de Torah disponible. Mais visiblement, il doit y en avoir une, puisque l'aubergiste va lui servir. Donc il va faire une lecture du texte interdit dans cette auberge. À l'issue du repas, il va monter la garde pour être adoubé chevalier parce qu'il ne peut entreprendre aucune aventure sans être chevalier. Et là, il va se faire adoubé chevalier par deux jeunes femmes, des prostituées qui sont là. La première, c'est la Tolosa, hein, qui va lui donner sa bénédiction sur l'épaule. Et la deuxième, elle s'appelle Molinera, qui elle aussi va accepter de le faire chevalier. La première Tolosa, la Toubouz, quelque sorte, vous relisez le mot de droite à gauche, comme l'hébreu, qui est une langue qui se lit de droite à gauche, l'inverse par rapport à une langue latine, et Tolosa devient Azoloth. Et Azoloth, c'est un concept de l'herméneutique hébraïque qui veut dire les émanations. Les émanations divines qui se répandent sur la terre. Donc Don Quichotte va être armé chevalier par les émanations divines, de droite, de l'information divine. Mais ça ne lui suffit pas, il faut aussi avoir l'adoubement de la gauche, qui est les forces matérielles, concrètes, parce que Don Quichotte est aussi un homme qui vit dans le réel, et nous vivons tous dans le réel, on n'échappe pas. Donc il veut l'adoubement de l'autre jeune femme qui est là, qui s'appelle la Molinera. Et la Molinera, en hébreu, c'est Mulnera, c'est la mauvaise lumière d'en face. Ben, par rapport à la Zolote, elle est à l'envers. Il veut la bénédiction de la gauche et de la droite, et c'est un concept qu'on retrouve dans le Zohar, où l'auteur du Zohar appelle ça le mi et le ma. Et le mi et le ma forment l'unité. Et la troisième bénédiction qu'il veut, c'est celle de l'aubergiste, qui la lui donne aussi, qui le tient pour fou, mais ça ne fait rien. Il a l'air de comprendre tout à fait qui est Don Quichotte. Et l'aubergiste a parfaitement identifié qui est Don Quichotte quand il vient, et ils se sont reconnus tous les deux. Et ils ont un code entre eux, que Don Quichotte va activer, un code de reconnaissance au début quand il arrive. Et ce code de reconnaissance, il est très simple. C'est Don Quichotte lui donne le début d'un poème, les deux premiers vers d'un poème, et l'aubergiste lui répond les deux vers suivants du même poème. Alors on est quand même étonné de tomber sur un aubergiste érudit qui connaisse les poèmes de Don Quichotte. En réalité, c'est un signe de reconnaissance entre juifs pour savoir si vous êtes dans le même navire, un verset de la Torah quelconque, et s'il le connaît, il vous répond la phrase suivante. C'est comme ça que vous êtes sûr d'être bien en phase avec votre collègue. C'est un code qu'a utilisé la résistance pendant la guerre, lors du débarquement. On vous dit le célèbre vers de Paul Verlaine pour le débarquement, les violons, comment ça s'appelle, les longueurs monotones, etc. La BBC donne la première moitié d'un texte et les résistants ont la deuxième moitié. Et quand la première moitié est envoyée, les seconds savent de quoi il s'agit et savent qu'il faut passer à l'action. Et c'est le même type de reconnaissance que Don Quichotte opère avec l'aubergiste. Et Don Quichotte sait que l'aubergiste, là, ben, il peut y aller, il ne va pas le trahir à l'Inquisition. Il recueille les gens, les Hébreux qui viennent se réfugier chez lui, célébrer le Shabbat. Tout ça se passe dans un seul chapitre, tout au début de Don Quichotte. Et ce chapitre se termine d'une façon très sympa, parce que à la fin, Don Quichotte fait une espèce de synthèse de tout ce qui s'est passé dans l'auberge. Au moment de repartir, voilà qu'arrive un nouveau gardien de cochon. Ce n'est pas le même qu'au début. Il dit, voilà qu'arrive un châtreur de cochon avec son troupeau, qui visiblement, eux aussi, viennent célébrer le Shabbat. Parce que Don Quichotte repart le samedi, mais le Shabbat se continue, se poursuit. Donc le samedi arrive, le lendemain arrive un nouveau troupeau de cochons guidé par un châtreur de cochons. Et Don Quichotte dit qu'il s'en trouve très satisfait et que c'est la preuve qu'il ne s'est pas trompé. Et que cette auberge était bien un château, et que l'aubergiste était un châtelain, et que toute la réalité qu'il a vue, et n'était pas ce qu'il nous a raconté. Ce n'était pas une auberge, c'était un château. Ce n'était pas un aubergiste, c'était un châtelain. Donc, il faut voir la réalité qui nous expose et ce qu'il y a derrière. Donc, ce n'était pas un château non plus, c'était bien une synagogue. Ce n'était pas un châtelain, c'était un rabbin. Et le châtreur de porte qui vient, eh ben, c'est un rabbin qui vient faire une circoncision, tout simplement. Parce que châtrer un porc, ça veut dire, c'est un peu vulgaire de le dire, châtrer un porc, c'est lui entailler les parties. Autrement dit, c'est une image un peu lourde qu'utilise Cervantes, mais pour dissimuler l'opération. Le bonhomme vient châtrer des porcs, ça veut dire qu'il vient faire une circoncision, et c'est le jour du Shabbat, un samedi, qu'il vient le faire. Vous imaginez, un inquisiteur qui arrive à identifier ça, mais... Cervantes face au bûcher immédiatement. Mais ça prouve aussi qu'à l'époque, ce genre de choses se faisait, puisque Cervantes le raconte, et que le culte israélite était toujours pratiqué en cachette, qu'il y avait des gens qui le connaissaient, qu'il y avait des synagogues secrètes, partout. Et que cela s'est poursuivi encore bien longtemps après. Ça, c'est Don Quichotte à l'auberge. Alors évidemment, quand on étudie Don Quichotte au lycée, bon ben, c'est amusant, quoi. C'est un pauvre fou qui vit des aventures insolites. Mais quand vous entrez dans le décodage qui est dedans, vous dites, mais la parole, qu'est-ce qui nous fait lire? Qu'est-ce qui nous fait voir? Dans quel contexte il nous plonge? Il repart le lendemain et il rentre chez lui, après cette première sortie. Et sur le chemin du retour, il rencontre une troupe de marchands qui arrivent de Tolède. Des marchands de soie qui viennent de Tolède et qui se dirigent vers Murcia, la ville de Murcia. Ils traversent donc l'Espagne, là, pour aller sur la côte de la province de Murcia. Et Don Quichotte les interpelle. Et il les défie en leur demandant, en exigeant d'eux qu'ils reconnaissent la supériorité de Dulcinea del Toboso. Et les marchands qu'ils rencontrent, évidemment, ils comprennent très bien son langage. Ils ne sont pas choqués du fait qu'il soit un chevalier errant, ni qu'il ait une dame souveraine de ses pensées, mais ils ne sont pas du tout prêts à se soumettre à Dulcinea del Toboso. Alors, qui est Dulcinea del Toboso? Dulcinea del Toboso, dans le roman, c'est une paysanne qui vit dans le village du Toboso. Pour Don Quichotte, Toboso, c'est le mot Tob, en hébreu ça veut dire le bon, le bien, comme dans Moïse Shem Tob de Léon, c'est bon, c'est valable, reconnu valable. Tob Sod, ça veut dire le bon secret. Et Dulcinea, c'est la douce lumière du bon secret. Et Dulcinea del Toboso, comme il le dit, c'est la dame souveraine de ses pensées. C'est l'image de la Shekinah dans le judaïsme. Et la Shekinah, c'est la connaissance telle qu'elle est actualisée dans l'esprit de Don Quichotte. La Shekinah, c'est ce qui accompagne le juif quand il part en voyage. C'est sa connaissance qui l'accompagne partout où il va. Mais cette connaissance est toujours adaptée à son temps, à son époque. Pour Don Quichotte, la connaissance, c'est Dulcinea del Toboso. C'est sa compréhension qu'il a de la tradition, augmentée de la connaissance du Zohar et de sa propre mise au point. Il rencontre des marchands qui viennent de Tolède, les marchands de soie, et les marchands de soie, c'est une façon de désigner des juifs ou des rabbins qui se promènent. L'exercice de la profession marchand de soie est une allusion au judaïsme. On peut décrypter le symbole de la soie, ça prendrait trop de temps. Mais ce sont des juifs qui viennent de Tolède, qui est à l'époque la grande ville juive. Ils vont à Murcia. Murcia a quelque chose à voir avec la sécheresse. Et ils font ce voyage et ne veulent pas entendre reconnaître la supériorité de Dulcinea del Toboso, ce qui fâche Don Quichotte et qui va les affronter. Et les marchands de soie disent qu'ils ont pour. Ils ne peuvent pas reconnaître Dulcinea del Toboso parce qu'ils ont déjà pour reine la reine de Extremadura et la reine d'Alcarria. Ça veut dire que eux, leur Shekinah, c'est Extremadura et Alcarria. Extremadura, c'est la roche extrêmement dure, extrêmement dura. Et Extremadura, c'est la Torah, le texte de départ de base. Ce sont donc des gens qui se basent essentiellement sur la Torah, et Alcarria, c'est ceux qui ont lu les commentaires de la Torah, c'est-à-dire les talmudistes. Donc ce sont des juifs tout à fait respectables, aucun problème pour Don Quichotte. Mais leur connaissance repose sur la lecture littéraliste de la Torah et la compréhension littéraliste du Talmud. Et littéraliste parce qu'ils chevauchent des mulets, des ânes. Et dans le Zohar, il y a une phrase très précise qui dit que celui qui fait la lecture littéraliste chevauche un âne, tandis que celui qui fait la lecture mystique chevauche un cheval. Et là, on a la dialectique entre Don Quichotte et les gens qu'il rencontre, parce que Don Quichotte est sur un cheval. Un cheval un peu fragile peut-être, mais c'est quand même un étalon. Tandis que les commentaristes du Talmud et de la Torah qu'ils rencontrent, ce sont des gens qui chevauchent le sens littéral. Et donc, bien évidemment, ils ne veulent pas de l'approche symbolique et exégétique qu'apporte Don Quichotte. Ils ne veulent pas de Dulcinea del Toboso. Alors, ça leur fait un niveau de pensée en décalage. La mise au point opérée par Cervantes, c'est Dulcinea del Toboso. C'est une mise à jour de la connaissance, la Shekinah, augmentée par une nouvelle lumière qui est la sienne propre. Et il se heurte à la connaissance ancienne des traditionalistes religieux qui ne veulent pas bouger. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Le dilemme existe toujours. Vous avez toujours dans la religion, quelle que soit la religion d'ailleurs, vous avez toujours le fondamentalisme littéraliste qui ne veut pas admettre qu'on puisse lire le texte autrement que dans le mot à mot. Littéral et continu. Les mots n'ont d'autre sens qu'eux-mêmes et on ne peut pas faire d'exégèse ni même lire de symboles dedans. Ça, c'est les littéralistes ce qu'on appelle les fondamentalistes islamiques. Et bien, c'est à ça que se heurte Cervantes dans Les Marchands de Soie. Donc, il ne peut pas l'admettre. Il leur livre aussitôt une bataille et il les renverse, d'ailleurs, ils prennent la fuite. Et suite à ça, Don Quichotte lui-même est abattu par les gens qui entouraient ces personnes. Don Quichotte, il code son livre, Cervantes code son livre en hébreu, et en même temps, il sait bien que ça ne se passera pas facilement, et qu'il va se heurter à la conception dominante qui est celle de la pensée littéraliste, qui existe toujours aujourd'hui, hein, dans toutes les religions, et puis l'actualité nous le prouve. Que l'actualisation des critères de la connaissance est une nécessité, mais il y a toujours un retard phénoménal qui fait qu'on reste sur les fondements du passé. Et dans le judaïsme, ça existe. C'est les littéralistes qui restent bloqués dans les tranchées de la lecture du mot à mot. C'est très difficile de faire une exégèse et d'accepter qu'elle soit possible. Pourtant, Don Quichotte, c'est ce qu'il veut. Il veut sortir. C'est pour ça qu'il met sa rondacha antigua, il veut quitter l'ancienne porte, s'ouvrir et partir à l'extérieur. C'est tout son projet, partir à l'extérieur, sortir et faire sortir la connaissance accumulée. Après la bataille, Don Quichotte se retrouve battu, enfin il a été roué de coups par les gens qui protégeaient les personnes. Et Cervantes nous dit que quand il était blessé, Don Quichotte appelait toujours au secours son remède favori, qui était d'en appeler à son livre, au livre qu'il avait lu. Alors il est couvert de bleu et il appelle au secours son oncle, le marquis de Mantova. Qui est le marquis de Mantova qui aurait écrit un certain livre qui viendrait au secours de Don Quichotte. On ne sait pas qui est ce marquis de Mantova. Et il appelle au secours mon oncle, le marquis de Mantova. Ça veut dire que lui, Don Quichotte, il est le neveu de l'oncle, le marquis de Mantova. Il n'en dit pas plus, il faut donc faire une espèce de petite fiche, comme dans une enquête policière, vous savez, on écrit les noms des suspects sur un carton, puis on le colle au mur, et puis on verra bien si au courant de l'histoire, le suspect va dévoiler son identité. Pour l'instant, on a juste l'identité du marquis de Mantova. Mantova, c'est Mantoue, la ville en Italie. Pourquoi il appelle au secours ce personnage, on ne sait pas très bien. Il rentre chez lui et il est trouvé en cours de chemin. Il rencontre Sancho qui va le ramener chez lui. Et de retour à la maison, Don Quichotte va dormir. Et c'est très intéressant de regarder ce qui se passe pendant le chapitre où Don Quichotte va ronfler. C'est le chapitre pendant lequel il retrouve le curé et le barbier qui disent, qui décrètent que la folie de Don Quichotte vient de ce qu'il a lu trop de livres. Donc les responsables, ce sont les livres. Donc il faut éliminer les livres de Don Quichotte. Et c'est là qu'on assiste à la fameuse scène où ils font une razzia dans la bibliothèque de Don Quichotte et le curé et le barbier prennent un à un tous ces bouquins et les jettent dans la basse-cour pour allumer le feu. Il y a toute une énumération des romans de chevalerie qui passent au feu, qui ne servent à rien. On pourrait faire une étude de tous les textes qui sont jetés au feu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Don Quichotte il dort pendant ce chapitre. Vous avez donc une bifurcation du récit, Don Quichotte dort et les autres agissent. Et voilà que tout à coup, il se réveille. Et il se réveille juste au moment où Cervantes évoque deux livres. Et il dit... Il ne sait pas, je ne sais pas si dans la bibliothèque de Don Quichotte, il y avait le livre Carolea, le livre de Carolea, qui s'appelle Carolea, et le livre qui s'intitule Les Fées de l'Empereur. Et il ajoute, si le curé les avait trouvés, il les aurait peut-être épargnés. Alors là, on est surpris, qu'est-ce que c'est ce curé qui aurait peut-être pu trouver des livres et qui les aurait épargnés. Donc ce curé a l'air de connaître des livres interdits. Et qu'il les aurait peut-être épargnés, il n'est peut-être pas non plus l'inquisiteur en personne, le curé. Il est peut-être plus coulant qu'on ne le croit. On pourrait identifier dans le curé un personnage historique qui a existé à l'époque, que tu es le fondateur de l'université d'Alcalá de Henares, où Cervantes a fait ses études. C'est un prélat qui a sauvé beaucoup de livres, tout en étant le chef de l'Inquisition. Espèce de personnage bizarre qui brûle tout en sauvant des livres. Et c'est tout à fait le personnage du curé dans la scène où les livres sont brûlés. Alors, Don Quichotte se réveille à l'instant où les questions du livre Carolea et les faits de l'empereur. Carolea est écrit, dit-il, par un certain Léon d'Espagne. Et les faits de l'empereur sont écrits par un certain Don Luis de Ávila, Ponce de Ávila. Qu'est-ce que c'est tous ces noms, tous ces mots? Alors on peut refaire des fiches, comme tout à l'heure avec le marquis de Mantova, et on fait une fiche Carolea, Léon d'Espagne, les faits de l'empereur, et en dessous, Luis Ponce de Ávila. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces mots qui viennent, que Cervantes nous jette comme ça à la figure? Il faut qu'il y ait un sens, parce que Don Quichotte se réveille. Et s'il se réveille, ça veut dire que nous aussi, les lecteurs, on va se réveiller, faire attention maintenant. On ouvre grand nos yeux sur les titres et sur les noms d'auteurs qui viennent d'apparaître. Léa Caro, ça veut dire en espagnol, lire quelque chose qui est cher. Caro, c'est cher. Cher du point de vue argent, cher peut-être parce que j'y tiens beaucoup. Ou caro, c'est aussi le mot qui évoque le char. Le char. Est-ce qu'il existe dans la littérature qu'a pu lire Cervantes quelque chose qui fait une allusion au char? Dans la Torah, il y a le chapitre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, qui a une vision d'un char. Il a une espèce de prophétie de char. Et il y a tout un chapitre sur le char, la vision du char. Et ce chapitre d'Ézéchiel a fait l'objet d'une étude et d'une exégèse dans le Zohar de Louis Shemtov de Léon. Alors on peut se dire, tiens, il y a un rapport entre Léa Caro, Ézéchiel et le Zohar, peut-être. L'auteur de ce Caroléa serait un certain Léon Hébron, Léon d'Espagne, pardon. C'est qui Léon d'Espagne? Léon, c'est la ville de Léon. C'est aussi le prénom, Léon. Et Léon en hébreu, c'est Ari, c'est-à-dire le maître de la tradition. Ari, c'est un maître de la Kabbale. Léon d'Espagne. Donc il y aurait en Espagne, un maître de la connaissance qui aurait écrit un livre qui aurait une relation avec Caro. Le livre suivant, c'est Les faits de l'empereur. Les faits de l'empereur, les spécialistes ont cherché. Est-ce qu'il existe un livre dans la littérature mondiale qui s'appelle Les faits de l'empereur? Ça n'existe pas. Donc on a estimé que Cervantes est fainéant. Il invente un livre qui n'existe pas. Mais en réalité, les faits de l'empereur, les faits, il faut retransposer les choses. Et dire un mot pour ne pas en dire un autre. Les faits, c'est le résultat des émanations. Et l'empereur, c'est le roi. Qui dit le roi dit la couronne. Et donc j'ai les émanations de la couronne qui se traduisent par l'effet de l'empereur. Les émanations de la couronne, c'est un chapitre du Zohar. C'est le titre du chapitre d'un chapitre du Zohar. Écrit par qui? Par un certain Luis Ponce de Ávila. Ponce, Ponte, c'est le pont. Ávila, c'est la ville de Ávila. Qu'est-ce que Ávila a à voir dans cette histoire-là? Il se trouve que l'auteur du Zohar est originaire a écrit le Zohar à Ávila. Il était originaire de la ville de Léon. Et vous savez, Léon d'Espagne et la ville d'Ávila. Et entre les deux, il y a le pont, Ponce. Et qui fait le pont entre les deux? Eh bien, c'est l'auteur, Moïse Shemtov de Léon, qui a écrit le Zohar à Ávila. Et le pont, c'est lui qui le fait. Donc, Carolea, l'effet de l'empereur, c'est la même chose pour désigner le Zohar. Et Léon Hébreu et Luis Ponce de Ávila, c'est le même personnage, ça n'est rien d'autre que Moïse Shemtov de Léon. Vous voyez comment Cervantes, il vous crypte, il vous dit quel est le livre duquel il s'est inspiré. Mais il le cache, il ne vous le dit pas, c'est le Zohar. Il trouve un système pour le coder, pour le cacher. Et alors vous revenez au début du chapitre où il dit qu'il a invoqué son oncle, le marquis de Mantova. Il serait donc lui le neveu de ce marquis. Et Mantova, qu'est-ce que Mantova a à voir là-dedans? Ben, si vous vous documentez un petit peu, vous apercevez que le Zohar, qui est un livre du XIIe siècle, était écrit à la main en araméen, mais qu'il a été imprimé au XVIe siècle pour la première fois dans la ville de Mantova en Italie. Vous trouvez le sens de la présence de la ville de Mantova, la ville, vous avez Mantova, l'Espagne, Léon d'Espagne, vous avez León, la ville de León, la ville de Avila, ce sont trois villes qui désignent chaque fois, par allusion, le même livre, c'est chaque fois le Zohar qui est désigné. Et son oncle qui s'appelle donc le marquis de Mantova, n'est rien d'autre qu'une manière de désigner Léon, Sheltov de León, dont le livre a été imprimé en Italie, à Mantova. Et la confirmation vous est donnée dans le deuxième tome, 60 chapitres après. Cervantes revient sur l'histoire parce qu'il se dit qu'il n'a peut-être pas bien compris dans la première partie. Je reviens dessus, j'insiste. Et on arrive avec Don Quichotte à Barcelone. Il va visiter une imprimerie. Il s'est débarrassé de son armure et tout, il est incognito. Il rentre dans une imprimerie et là il rencontre un auteur à qui il demande quel est ce livre qu'on imprime dans cette imprimerie. Et la personne lui répond: on imprime ici un livre qui s'appelle « Les Lumières de l'âme ». Les Lumières de l'âme, c'est une façon de désigner le Zohar, qui veut dire le livre des splendeurs. Il utilise un titre approximatif pour dire « on imprime quelque chose qui apporte de la lumière ». Peut-être c'est excessif comme rapprochement, mais Cervantes continue et nous donne des détails. On est dans une imprimerie. Et dans cette imprimerie, il va être question de la langue italienne. Et ça nous ramène le thème de l'Italie et de Mantova. Et il va dire à l'auteur: donc vous savez ce que veut dire le mot pignata? Et il dit: oui, bien sûr, ça veut dire la marmite. Et il lui donne plusieurs mots en italien, en lui donnant chaque fois la traduction correspondante en espagnol. Et il se moque des Italiens connaissant le mot pignata, qui ne reconnaissent pas le mot marmite quand il se présente dans un texte. C'est une façon de nous dire: vous les lecteurs, vous ne reconnaissez pas le Zohar, alors que je vous ai déjà donné toutes les indications depuis le début du livre. Je vous ai dit Léon d'Espagne, Léon d'Hébreu, Avila, Shemtov, Mantova, et vous ne l'avez toujours pas compris. Il faut vraiment que j'insiste, que je vous amène dans l'imprimerie et que je vous donne en quelque sorte une espèce de titre déguisé, mais que je vous dise que ça se passe en Italie, pour que vous compreniez qu'il s'agisse de Sheltov de León. Et dans le deuxième tome, Cervantes il insiste sur les choses pour bien nous faire comprendre c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est, et c'est sur ça que se termine la première sortie de Don Quichotte, sur l'identification du Zohar et sur l'arrivée de Sancho. Et ensuite, il prépare sa deuxième sortie. Voilà, pour l'instant. C'est pas fini, je peux continuer si vous voulez. Il y a un thème intéressant que je peux développer dans Don Quichotte, c'est le vin. J'en vois deux qui picolent là tranquillement. C'est peut-être le blanc. Je vais commencer à parler du vin. Et après ça, on va faire le vin. Dans Don Quichotte, il y a une espèce de présence du vin comme symbolique, mais aussi il picole pour de bon. Et il y a deux chapitres très intéressants où il est question du vin comme thématique centrale. C'est dans le premier tome, et il y en a un autre dans le deuxième tome. Dans le premier tome, c'est Don Quichotte qui est à l'auberge de nouveau. Et il est pris d'une espèce de crise de somnambulisme. Il se réveille la nuit et puis il estime qu'il est attaqué par un géant. Le géant qui a pris le pouvoir et qui a attaqué la princesse Nico-Nicola. Et il se réveille, il se bat avec son épée et il va faire éclater les outres de vin qui sont accrochées au mur. Or, il dormait justement la tête contre le mur. Donc il y a une proximité entre le vin, le cerveau, la tête. Et en perçant les outres de vin, il a répandu partout le vin dans toute la salle. Ce sont de grandes outres de vin, des barriques qui doivent contenir je ne sais combien de dizaines de litres de vin, et le vin se répand. Alors le vin, évidemment, c'est la symbolique de la loi dans la tradition hébraïque, mais aussi chrétienne. Parce que dans la messe chrétienne, le prêtre, il soulève son calice et il vous dit « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang qui sera versé pour vous et pour l'alliance éternelle, etc. » Donc le vin, c'est le symbole de la loi nouvelle. Et quand Don Quichotte perce l'outre, la connaissance se répand. Ça rejoint la thématique de Don Quichotte qui veut faire sortir. Il veut faire sortir le vin, la connaissance, des anciennes outres. Les outres, ce sont les anciennes élites hébraïques de la tradition antique. C'est tous les grands maîtres de la loi qui ont accumulé la connaissance. Et lui, ce qu'il veut, c'est que cette connaissance ne reste pas confinée dans l'enceinte hébraïque, mais qu'elle soit répandue dans le monde. Sa volonté est quelque part messianique. Parce que tant que la connaissance reste dans l'enceinte hébraïque qui a bien reçu le message, ça reste une opération de perception, de réception de l'information dans l'outre Israël. Ils ont absolument bien reçu le message, ils l'ont travaillé, ils l'ont consigné par écrit, ils ont fait un énorme effort de réflexion intellectuelle pour tout consigner. Et ensuite, ce message, eh ben, il doit être diffusé dans le monde, il doit sortir. Et le messianisme, c'est ça, c'est l'opération de sortie de la loi pour tout le monde. Ça cause certains problèmes, parce que certains croient que ce messianisme doit être réservé à ceux qui l'ont réceptionné, d'autres disent que non, ça doit venir de l'extérieur, c'est toute une dialectique. Mais Don Quichotte, son projet, c'est faire sortir le vin, le répandre partout, afin que tout le monde puisse en boire et en profiter. Donc, il attaque le géant, et sa méthode pour battre le géant, c'est de faire répandre la loi. Après, on lui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et il explique qu'il avait affaire à un géant qui s'appelle, dont on ne connaît pas le nom, et il dit que la princesse Mikomikona, c'est dans sa vision, la princesse Mikomikona avait affaire à un géant, un imposteur qui a volé son royaume, et pour battre ce géant Mikomikona, lui a pris l'épée et a décidé de la défendre. Et que maintenant, il a battu le géant, et que Mikomikona peut retrouver son royaume. Dans le roman, Mikomikona, c'est Dorothée, c'est le personnage de Dorothée, qui se retrouve transposée dans la vision de Cervantes, elle se retrouve transposée dans le rôle de la princesse Mikomikona. Alors, on peut regarder les noms qu'il emploie Don Quichotte. C'est des noms qui fonctionnent en hébreu et qui vous expliquent, qui vous permettront de comprendre ce qu'a fait Don Quichotte à ce moment-là. Mikomikona, c'est. Vous avez la répétition de mi dans le nom Mikomikona. Vous avez deux fois mi. C'est-à-dire, c'est le côté de la structure qui a l'information, le côté qui sait de l'information. C'est le mi face au ma, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est les émanations face aux forces matérielles. Donc, la princesse Mikomikona, c'est l'information qui n'a plus droit au chapitre et qui est dominée par les forces de l'opposite, les forces du ma qui sont trop fortes, qui ont pris le pouvoir au point d'occuper tout le territoire de la structure. Il n'y a plus de mi, il n'y a plus que du ma. Et ça veut dire que Don Quichotte ne le supporte pas, il va porter secours au mi pour rétablir l'équilibre entre les deux forces antagonistes. Il veut que la princesse retrouve le royaume qui lui appartient et que le ma a usurpé. Dans Mikomikona, vous avez le mot miko, ici le mi, et Kona, le trône, ici le trône du mi. Donc Don Quichotte, il veut rétablir le mi sur son trône, rétablir la connaissance sur son trône, et il ne veut pas que les forces matérielles, ce sont au demeurant les forces qui nous dirigent en ce moment, les forces matérialistes, c'est le projet civilisateur que nous avons, qui consiste à produire plus, travailler plus, avoir plus, à faire de nous des êtres, des individus de productivité, au détriment des forces de la connaissance, du nous, au détriment de l'être. Et Cervantes, Don Quichotte, intervient avec son épée, avec son verbe, l'épée c'est le symbole du verbe, pour rétablir l'équilibre. Et comment va-t-il faire? Bon, dans son combat, il tranche la tête du géant. Mais surtout, il crève les outres de vin, et le vin se répand. Donc sa méthodologie, c'est pour affronter le géant, les forces matérialistes. Il ne s'agit pas de les affronter directement. Ce serait jouer leur jeu. La seule manière pour gagner, remporter le combat, c'est de faire sortir les critères de la connaissance, les exposer et les faire connaître à tous. C'est donc la connaissance qui va remporter le combat par ses propres critères. Le vin, c'est donc le symbole de la connaissance qui doit se répandre. Voilà. Et c'est là que vient sa vision. Et c'est sur ce qu'on peut boire un verre de vin.
Mais...
Après, je donnerai la suite de l'histoire du vin, parce que dans le tome 2, il revient sur le vin. Mais cette fois, dans le tome 2, c'est pas Don Quichotte, mais à fond. Qui a affaire au vin, c'est Sancho.
Sancho
Panza. Oui. Eh ben, je crois que Sancho, il aura ça. C'est un peu dans le lapin à Gilles, pour mon ami.
Oui,
Amalak qui chante ce que j'avais.
Oui, alors bon, ça n'a pas grand chose à voir avec la différence. Si j'avais su, j'aurais chanté Yerushalayim, qui est une magnifique chanson.
C'est bien.
Ah, vous saviez déjà?
Oui,
là, on l'a parlé, c'est
bien. Ah,
d'accord, je vais juste vous interpréter une petite chanson.
Voilà, Dominique ne savait pas, mais je lui déclarais tout à l'heure que.
Je l'ai découvert tout à l'heure, c'est bon.
Et c'était bon, là, il le sait à peine. Bon, il m'a fait une surprise, ben voilà. Donc là, on est au lapin agile. Là, c'est chanson. Et je vais d'abord éclairer un peu Amala Landry, qui chante le soir. Vous pouvez venir écouter. Aussi, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Le soir, voilà.
Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir avant de me dire je t'aime avant que je puisse vous le dire. Attendez que ma joie revienne qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi le chagrin m'emporte. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. J'attendrai que ma joie revienne et qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calmer mon délire. Il est paraît-il un rivage guéri du mal d'aimer, des amours morts qui font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne et qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir. Je puisse revenir. Alors, je t'en fais la promesse. Ensemble, nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends, c'est la sienne. Le passé ne veut pas mourir.
Voilà, ça ouvre merveilleusement bien le moment où on va pouvoir.
Allez voir maintenant. Voir.
Merci. Ah, vous savez que c'est
trop plaisir. Surtout ma première fois au piano, il faut le savoir quand même. Je ne m'accompagne pas normalement.
Elle est accompagnée, mais c'est une bonne chose. Elle peut s'accompagner. Ah ouais. C'est un encouragement aussi. Parce qu'en fait, on fait un peu des expériences aujourd'hui.
Une chanson, une chanson très à propos.
Hein. Ah bon?
Vous êtes en train de résumer avec des mots et un peu de jolie forme ce qui vient d'être exposé en un premier temps. Non, c'est vrai.
Oui, moi, je trouve que le passé ne veut pas mourir.
Le passé ne veut pas mourir. Oui, non, tout a été dit aussi.
La nouveauté arrive.
Oui.
Il faut que tu le signes.
Et puis, de toute façon, ça peut être qu'à propos, puisque vous êtes l'interlude dans un cercle qui a du sens. Donc, vous faites sens aussi. Votre place n'est pas une pièce rapportée, forcément. Ça a du sens. Si Dominique vous invite à avoir une lecture fine de tous les événements qui sont ce que nous vivons, vous êtes à l'intérieur de cette lecture. Un chapitre important à lire.
Voilà. C'était totalement spontané. C'était par hasard. C'était pas comme tout.
Non, mais c'est super.
C'est bien. Alors, vous entrez, hein, vous servez un peu de bruit à voir.
C'était pour chanter des chansons sur le
vent. Ah, oui, c'est vrai que je fais chanter des chansons sur le vent, mais là, en fait, celle-ci. Voilà.
C'est un livre que tu n'as pas.
Oui, enfin, il y en a beaucoup. Ah, je les ai tous, bien sûr, je les ai tous donnés à Florinda.
Ah oui, tu l'as bien fait.
Il y en a pas mal que je dois reconstituer. D'ailleurs, je dois laisser sur celui-ci en ce moment, ce que je n'ai pas. Je n'ai plus, surtout.